Jazz. Radio Classique, les spécialistes.
Les spécialistes avec Emmanuel Faux, avec évidemment Dimitri Pavlenko et avec Élodie Fondacci. La visite d'Emmanuel Macron en Israël et en Cisjordanie. Le chef de l'État, nous le répétons depuis l'intégralité de la matinale, doit participer ce jeudi aux commémorations de la libération des camps au milieu de plus de 40 dirigeants étrangers, 25 chefs d'État. Mais d'abord, retour, mon cher Emmanuel Faux.
Oui.
Bonjour.
Bonjour Guillaume.
Sur sa visite d'hier dans la vieille ville de Jérusalem. Une visite qui avait un petit air de déjà-vu.
Ben oui, en regardant la séquence, on s'est dit « Sors de ce corps, Jacques Chirac !» Comme son prédécesseur, il y a 24 ans, Emmanuel Macron a laissé éclater sa colère devant des policiers israéliens un peu trop intrusifs. Comme il y a 24 ans, l'incident a eu lieu aux abords de la basilique Sainte-Anne, qui est l'un des lieux saints dont la France est la gardienne, et où la police locale n'est pas censée entrer. Le célèbre...
What do you want? Me to go back to my plane and go back to France? Is that what?
D'octobre 96 est devenu hier.
Nobody has to provoke nobody, okay? I can tell you. So everybody respects the rule.
Et vous l'avez noté, Guillaume, Macron comme Chirac ont livré aux caméras un anglais très basique, avec accent français à couper
voilà,
au couteau.
Tout le monde commente ça sur les réseaux sociaux.
Ouais, alors qu'on sait qu'Emmanuel Macron parle un anglais bien meilleur que celui-là. Mm-hmm. De là à penser que le président a cherché à rejouer la scène il y a 24 ans, il n'y a qu'un pas, comme pour réaffirmer le marqueur de la souveraineté de la France sur ces lieux saints, car c'est ça l'enjeu de cette séquence. Et d'ailleurs, le mimétisme est allé jusqu'au bout, puisque comme Jacques Chirac, qui avait déclaré que l'incident était clos en rentrant à son hôtel, eh bien le président Macron a estimé à la fin de sa visite que la parenthèse était refermée. Et autre point commun entre les deux époques, ça ne manque pas que celle, figurez-vous qu'en 2020, comme en 1996, le Premier ministre israélien s'appelle toujours Benjamin Netanyahou. Il a quitté le pouvoir entre-temps, mais il est revenu.
Le problème, c'est que cette séquence de la vieille ville, elle a éclipsé tout le reste de la visite.
Ben oui, vous savez, la force de l'image qui balaye tout. Et pourtant, Emmanuel Macron a bien veillé à l'équilibre des symboles toute la journée. Il a rencontré hier le Premier ministre Netanyahou et le président israélien Rivlin. Mais il s'est aussi rendu à Ramallah, en Cisjordanie, pour voir le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas. Il est d'ailleurs le seul chef d'État invité à ces commémorations de la libération du camp d'Auschwitz, qui a tenu à aller dans les territoires palestiniens, c'est à souligner. De même, dans la vieille ville, Emmanuel Macron s'est rendu au Kotel, le mur des Lamentations. Et ensuite, il a marché sur l'esplanade des mosquées, qui est, vous le savez, pour les musulmans, le troisième lieu saint de l'islam. Donc, parallélisme des formes et des lieux visités, oui, mais sur le fond, c'est le néant. Et voilà peut-être une différence avec 96. Aucun plan de paix sur la table ou dans la serviette d'Emmanuel Macron. Le président français avait prévenu, un processus de paix n'est possible que si les deux parties en présence veulent bâtir la paix. Sous-entendu, aujourd'hui, il n'y a plus de plan de paix, car il n'y a plus de volonté de paix. Il n'empêche, la France, autrefois, avait quand même un rôle d'inspiratrice, d'arbitre, eh bien aujourd'hui, il ne se fait plus entendre que dans les rues de la vieille ville de Jérusalem pour rappeler la police israélienne au respect des lieux saints.
Voilà, nous en parlerons tout à l'heure dans Esprit Libre, évidemment, avec nos chroniqueurs, et nous retrouverons à Tel Aviv ou entre Tel Aviv et Jérusalem, le réalisateur Eli Chouraki qui a rendez-vous avec Emmanuel Macron ainsi que toute la communauté française en dehors des cérémonies donc prévues aujourd'hui. Nous allons parler maintenant d'économie, mais d'économie gastronomique, puisque nous faisons une journée un petit peu particulière autour d'Alain Ducasse. Si c'est vrai que cette gastronomie française, mon cher Dimitri, rebonjour, ouais. A été pendant des années leader dans le monde entier, qu'il y a une sorte de contestation mondiale, tout simplement parce que le monde se réveille, c'est la mondialisation, c'est pas quelque chose qui est destiné à attaquer la France, mais c'est un réveil de toutes les parties du monde, il n'y a plus vraiment de centre. La grande question, c'est comment fonctionnent ces modèles, qui sont les modèles des grands chefs français, qui se sont, comme Ducasse, comme beaucoup d'autres, Robuchon, exportés dans le monde entier avec des difficultés et des succès phénoménaux.
Alors moi je ne vais pas me pencher sur la carte, hein, ça vous en parlerez avec Alain Ducasse, la mondialisation de la cuisine, les influences asiatiques, etc. Il en parlera sans doute bien mieux que moi, mais en revanche c'est le business model d'un étoilé. C'est quand même extrêmement compliqué, il ne faut pas croire qu'on roule sur l'or et que ce soit des affaires hyper rentables, au contraire. C'est une science exacte, la cuisine étoilée. Pourquoi ? Parce qu'il faut tout calculer, le prix de revient de l'assiette, la taille des portions. Il faut vous dire, figurez que dans un étoilé, la marge elle n'est pas très élevée. Avant impôt, 5 à 6 %, Vous comptez à peu près 35% du chiffre d'affaires pour l'achat du coût des matières premières. Et alors, le pôle, évidemment, de dépenses le plus important.
Le personnel,
la main-d'œuvre, effectivement, qui peut s'envoler jusqu'à 45-50% dans certaines étoilées. Pourquoi? Parce que d'abord, il y a l'organisation même d'une brigade de cuisine avec cette fameuse coupure entre le service du midi et du soir. Il y a beaucoup de jeunes qui refusent d'aller travailler en cuisine. Pourquoi? À cause de ça. Et donc, vous avez parfois deux équipes, une pour le déjeuner, une pour le dîner. À 300, 400 euros le ticket dans un étoilé, ça paraît cher comme ça, mais franchement, il n'y en a pas beaucoup.
400 euros le ticket dans un 3 étoiles.
Dans un 3 étoiles, bien sûr. On peut se dire que le restaurant gagne beaucoup d'argent, mais c'est loin d'être le cas. Aucun étoilé ne se suffit à lui-même. Alors, les chefs, ils ont trouvé la combine, plutôt la diversification. On monte un bistrot, parce qu'un bistrot, effectivement, le ticket moyen par client est moins cher, mais ça rapporte beaucoup plus, parce qu'évidemment, il y a beaucoup moins de coûts de main-d'œuvre. Les livres aussi, ça, c'est des opérations de communication. Quand un chef accède à la notoriété, et pour ça, on peut dire merci la télévision, pour eux, c'est un moyen aussi de rentabiliser la carrière. Cela dit, le modèle maintenant aujourd'hui des carrières des jeunes chefs, c'est aussi une interrogation de la profession, c'est y aura-t-il demain des candidats aux étoiles ? Puisque généralement, les jeunes qui sortent des cuisines étoilées, au bout de 15 ans de métier, ils veulent monter leur affaire. Qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils rachètent à la barre du tribunal un établissement en faillite. Il y en a 6 à 7 000 par an. Ils montent leur petit bistrot, ils cravachent pendant 5 ans. Quand c'est rentabilisé, à ce moment-là, ils ont remboursé leur emprunt, ils en rachètent un deuxième, etc. On sent quand même, dans le milieu de l'élite gastronomique française, eh bien, cette critique à l'égard d'une jeune génération qui veut un petit peu moins s'embêter et veut apprécier aussi de vivre, pas forcément que pour la course aux étoiles.
Voilà, et nous pensons ce matin à Sébastien Demorand, qui justement était un chroniqueur gastronomique formidable, qui a participé à des émissions de télévision et qui malheureusement nous a quittés. Et nous pensons aussi, évidemment, à ceux qui ont marqué l'histoire de la cuisine française, les Robuchon, effectivement, nous parlions tout à l'heure de ce pape lyonnais. Mais il y a tous ceux qui arrivent maintenant, donc Kélé, ou des gens qui sont encore évidemment en activité comme Christian Constant.
Qui cartonnent à l'étranger, mais qui ne sont pas connus chez nous. Eric Ripert à New York, personne ne connaît en France, il a une émission de télévision. Voilà, il y a des très belles carrières de Français qui se font à l'étranger.
Merci beaucoup. Alain Ducasse, 8h15, tout à l'heure, nous aborderons tous ces sujets. Avec vous, ma chère Élodie, nous allons jeter un coup d'œil, une sorte de, comment on veut dire, de close-up sur la dernière collection. Donc, c'est le sujet que vous avez choisi ce matin, qui s'est déroulé hier soir, donc, de Jean-Paul Gaultier.
Oui, et quand on parle de très belles carrières, eh bien, ça, c'en était une. C'était effectivement hier soir au Théâtre du Châtelet, point culminant de cette semaine de collection printemps-été 2020, le dernier défilé de Jean-Paul Gaultier, puisqu'après 50 ans de carrière, l'enfant terrible de la mode a tiré sa révérence. Il l'a annoncé sans équivoque le 17 janvier avec un communiqué. Le 22 janvier 2020, je fêterai mes 50 ans de carrière, ce sera aussi mon dernier défilé. Alors que de chemin parcouru pour ce gamin d'Arcueil qui a fait son tout premier dessin après avoir vu à la télé chez sa grand-mère un show aux Folies Bergères. Un dessin avec des trucs en plumes qui a été aussitôt confisqué par la maîtresse, mais qui a beaucoup séduit ses petits camarades, évidemment.
Moi, la haute couture, eh ben, c'est un rêve qui devient réalité.
Voilà, il en a fait son rêve et l'événement hier était de taille. La cohue, évidemment, l'était tout autant. 2000 personnes étaient attendues à ce défilé spectacle. Et sur le trottoir, beaucoup de fans qui n'ont pas pu rentrer, mais qui ont vu rentrer Nana Mouskouri, Lynn Renault, Christian Lacroix, Isabelle Marant. Et quand ils n'étaient pas dans la salle, eh bien, les personnages emblématiques de l'univers de Gaultier étaient sur scène. Rossi de Palma, Amanda Lynn, Antoine Decaune, Catherine Ringer, Béatrice Dalle, qui a fumé une cigarette sur le podium avant d'écraser son mégot, Mylène Farmer, Estelle Lefébure, qui l'a montrée enceinte à l'époque, vous vous souvenez. C'est Gaultier, ça, l'homme qui a ouvert la mode à toutes les morphologies, les gueules cassées. Vous savez, il avait passé dans le journal Libération en 1980 cette petite annonce. Créateur non conforme, cherche mannequin atypique, gueule cassée, ne pas s'abstenir. Il a mis toutes les minorités sur le podium jusqu'au roux, Jean-Paul Gaultier. Donc le défilé s'est ouvert avec un cercueil noir décoré par les deux bonnets coniques qui étaient sur les seins de Madonna à l'époque, d'où est sorti le premier mannequin en blanc. Et puis se sont succédés revisiter bien sûr toutes ces pièces qui ont fait le style du créateur, les jupes pour hommes, les tatouages, les plumes, les corsets, les armatures. Mais évidemment, ça vous va ravir d'ailleurs, qui sont imprimés dans l'imaginaire collectif.
Mon jogging en kilt.
Voilà, Jean-Paul Gaultier. Donc, et puis un an et demi après la mort de Karl Lagerfeld, c'est quand même voilà un des derniers très grands qui quitte quand même voilà le podium. Et c'était il ne va pas en rester là. Il a dit qu'il allait vers d'autres aventures.
Voilà, dans la une des Échos, pour revenir à l'économie, vous saurez que Tesla franchit le cap des 100 milliards à Wall Street. Ça va beaucoup mieux du côté d'Elon Musk à cause de la performance de son usine en Chine. Continue, donc il touchera un bonus de 346 millions de dollars. On se rappelle avec Dimitri qui a maintenant Bon, un an ou un an et demi, on le donnait perdu avec des chiffres qui étaient catastrophiques. Voilà un comeback fantastique. Et puis vous l'avez raconté, Dimitri, dans ce domaine aussi, Vuitton s'intéresse beaucoup au sport, puisqu'on parlait de la mode il y a quelques instants, avec une magnifique balle, mal, qui va être destinée à la NBA pour mettre le trophée. Donc on n'en a pas fini dans les surprises de l'économie mondiale. Il est 7h48, on parlera de tout ça évidemment. Dans les jours qui viennent, c'est normal, la passion nous anime, nous avons rendez-vous avec Renaud Blanc. De quoi va parler son journal imprévisible, mystère.